conjoint, Monique Kerouac. Bonjour, ça va bien, Monique?
Oui, ça va bien, je tiens le coup, Hélène.
Super. Alors, c'est un article de Guillaume Jacquemont qui vous a intéressé cette semaine.
Oui, exactement. Comme je disais, publié dans la revue Sciences et Avenir du mois de
février 2025, j'ai ça devant
oui,
moi.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, l'arrêt des tourbillons de l'esprit. C'est ainsi, Hélène, que l'érudit indien Patanjali définissait le yoga vers le 2e siècle avant notre ère.
Mais donc, c'est pas d'hier. Pas d'hier.
Et l'intérêt est majeur, tant notre esprit, on le sait, a tendance à tourbillonner en de multiples circonstances. Par exemple, quand nous ruminons le passé, quand nous imaginons le pire pour une réunion ou un examen à venir, quand toutes sortes de pensées nous empêchent de fermer l'œil la nuit. Ce qui n'a rien de bénéfique, on le devine, pour l'humeur et la santé mentale. Pour apaiser l'esprit, le yoga s'appuie en grande partie sur le travail du souffle, que l'on appelle le pranayama. Littéralement, ça veut dire « souffle de la force vitale ». Oh, ça me semble que ça nous donne le goût de respirer, Hélène.
Ah oui, vraiment.
Oui. L'impact de la respiration sur notre psychisme est donc connu depuis des millénaires, mais ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que le yoga est introduit en Occident et encore beaucoup plus récemment que la science s'y est intéressée. Donc, elle s'y intéresse d'abord pour confirmer le pouvoir apaisant du souffle et mieux cerner les techniques qui fonctionnent, et ensuite pour examiner comment ce va-et-vient d'air que nous faisons circuler dans les poumons agit sur le cerveau. Et enfin, pour déterminer dans quelles circonstances les techniques respiratoires sont bénéfiques. Bon, il y a beaucoup de techniques. Toutes les techniques existantes n'ont pas été analysées scientifiquement, mais les recherches modernes ont largement confirmé le pouvoir apaisant d'une partie de ce savoir-faire respiratoire. Premier exercice le plus simple, c'est se focaliser, se concentrer sur son souffle. Il s'agit juste de prendre conscience de sa respiration sans chercher à la modifier. Alors, sentez, par exemple, votre poitrine et votre ventre qui se gonflent et se dégonflent. Remarquez l'air qui atteint et traverse votre nez. Si cette technique est possible, c'est parce que le cerveau suit en permanence, c'est notre espion, là, tout ce qui se passe dans l'appareil respiratoire. En temps normal, il filtre ces informations, ce qui évite à l'esprit d'être envahi par le bruit de fond qui remonte du corps. Alors, un phénomène poétiquement qualifié de silence des organes.
Oh, c'est poétique, mais le mot « organe » n'est pas nécessairement poétique.
Ben, en tout cas, pour eux, ça a l'air que ça l'est.
C'est de la poésie.
Mais, oui, exactement. Ben, il y a toutes sortes de poésies, hein, Hélène.
Vraiment, j'en suis d'accord avec vous. Il faudrait les explorer toutes les sortes un jour.
Ben oui, il faudrait, hein. Mais il suffit de se concentrer dessus pour en prendre conscience. Le pouvoir anti-stress de cette technique est notamment attesté par les travaux qui ont été publiés en 2022 par la chercheuse indonésienne Maria Komaria et ses collègues qui l'ont proposé à une soixantaine d'étudiants au cours d'un essai. De fait, la focalisation sur le souffle détourne l'attention des ruminations négatives qui assombrissent l'humeur. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral? Ben, ça se traduirait par une désactivation du réseau dit mode par défaut, c'est-à-dire celui qui est responsable du vagabondage mental qui s'allume dès que l'on n'est pas concentré sur une tâche particulière.
Ce qu'on appelle le petit hamster là, qui bouge tout le temps, qui tourne toujours.
Oui, exactement. Alors, si, par ailleurs, si on est concentré, par exemple, lorsque vous animez, Hélène, ben, votre petit hamster, il ne bouge pas. Là.
Non, je suis dans le moment présent.
Exactement. Les résultats obtenus en 2016 par Anselm Dolm et ses collègues de l'Université technique de Munich en Allemagne suggèrent également que l'exercice de focalisation sur le souffle active le cortex préfrontal. Ce dernier est impliqué dans le contrôle de l'attention qui se met à contrôler, brider l'amygdale, pas dans notre gorge, là, mais dans notre le centre cérébral de l'anxiété. Alors, cet exercice pourrait également également augmenter la libération de sérotonine. Ah, on se rappelle de cette molécule.
L'hormone du bonheur?
De l'humeur, en
oui.
tout cas.
Qui nous rend de bonne humeur, en tout cas.
C'est ça. Ouais. Alors, la respiration, semble-t-il, est la seule fonction vitale qui soit contrôlable par la volonté. Alors, il est possible de bloquer sa respiration pour une apnée ou encore d'accélérer son souffle pour hyperventiler. Mais il n'est pas possible de faire de même avec les battements du cœur. La capacité de moduler le rythme à volonté est ce qui rend possible les techniques respiratoires. La mieux validée scientifiquement est probablement celle de la respiration lente, qui consiste à faire descendre le rythme respiratoire à moins de 10 cycles par minute, ça veut dire à peu près 6 secondes par cycle, contre 12 à 15 en temps normal. L'exercice pousse automatiquement à amplifier chaque cycle afin de continuer à assurer, bien sûr, les besoins physiologiques. Cette technique active puissamment le système parasympathique. Qu'est-ce que c'est que ce système? Ben, c'est la branche ralentisseuse.
Ah!
Système nerveux, ouais.
Il est vraiment parasympathique.
Oui, c'est vraiment sympathique tout ça. Ça diminue la fréquence cardiaque et donc la libération de cortisol, qu'on la connaît.
L'hormone du stress.
L'hormone du stress. Et oui, Hélène. Alors, le second mécanisme, en fait, c'est ça. De manière générale, le cerveau déclenche deux zones parasympathiques en lien avec la respiration. La première zone conduit à laisser cycliquement les poumons se gonfler. La seconde stabilise la pression artérielle et le débit cardiaque parce que le gonflement et le dégonflement de la poitrine entraînent des cascades de variations de pression qui affectent un petit peu le cœur. Les recherches montrent donc que ces deux ondes se synchronisent quand on ralentit notre respiration. Alors, à la fréquence d'environ 6 respirations par minute, la synchronisation est parfaite. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, il se produit une résonance, c'est-à-dire que les pics et les creux des deux ondes parasympathiques se superposent et produisent des oscillations maximales et donc un fort effet apaisant. C'est la fréquence préconisée par la technique dite de la cohérence cardiaque. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression, Hélène?
Pas sûr, je pense pas, je sais pas.
Non, ben, c'est une forme de ralentissement de la respiration. En fait, on conseille de compter, par exemple, 5 secondes à chaque inspiration et autant à chaque expiration.
Ah, oui.
Donc, on respire 5 secondes, on expire 5 secondes. Ça ralentit donc tous nos rythmes et nos pensées.
Et on s'endort.
Ah ben, je pense pas qu'on s'endort, mais
on est
mais
plus
ça
calme.
Peut nous aider à dormir, remarquez, ouais. Si on est dans notre lit, vous avez tout à fait raison. Une autre forme de respiration lente qui est intéressante, c'est la technique du double soupir.
Ah.
Ça consiste à...
inspirer. On en connaît le même.
Pardon?
On en connaît comme ça, des gens qui soupirent.
Oui, ben exactement, mais vous allez voir, vous respirez une première fois très lentement jusqu'à avoir l'impression que vos poumons sont remplis.
Oui.
Puis là, vous essayez de prendre une seconde inspiration.
Ah oui, c'est presque impossible.
Ben c'est presque impossible, mais si vous...
Il reste de la place.
Il y a un petit peu de place.
Oui.
C'est pas... Mais je pense qu'à la pratiquer régulièrement, on a de plus en plus de place à la deuxième inspiration.
Intéressant comme exercice.
Oui, c'est intéressant. Alors là, vous avez la respiration lente. 5 secondes inspirées, 5 secondes expirées.
Ah, c'est pas 6?
Non, ben 6 ou 5
okay.
secondes, là, c'est l'un ou l'autre. Et l'autre, c'est donc inspirer à fond, mais reste encore un deuxième petit effort. En 2024, d'ailleurs, l'équipe d'Andrew Huberman à l'Université Stanford aux États-Unis a montré que pratiquer 5 minutes par jour ces doubles soupirs, suivis d'une longue expiration, parce que là, on a beaucoup d'air dans nos poumons quand même, ça entraîne une baisse de l'anxiété, Hélène, une augmentation des émotions positive.
Bon, 5 minutes, c'est pas la fin du monde.
C'est pas la fin du monde, exactement. C'est tellement facile. Alors, pendant vos chansons, par exemple, que vous émettez, ben, vous pouvez respirer. Alors, cette augmentation étant même plus marquée qu'avec des exercices de méditation de pleine conscience. Alors, autre préconisation fréquente, respirer par le nez. En 2018, Andrea Zaccaro et ses collègues de l'Université de Pise en Italie ont passé en revue les recherches sur le sujet et conclu que respirer lentement par le nez entraînait une intensification des ondes dites alpha, et ça, c'est associé à un état de relaxation légère, ainsi que d'autres modifications de l'activité cérébrale dans les régions qui régulent justement le bien-être. De fait, nombre de travaux montrent que l'influence de la respiration sur le cerveau est maximale quand elle passe par le nez, dont le fond est tapissé de multiples terminaisons nerveuses. Donc, on a notre respiration lente, on a nos deux soupirs et on a aussi respirons par le nez. Mais les techniques respiratoires ne servent pas qu'à surmonter des problèmes ponctuels ou déjà installés. Elles représentent un moyen simple et sans risque d'entretenir sa santé mentale au quotidien. Pratiquées régulièrement, elles pourraient aider à diminuer le stress chronique et par le fait même participer à la prévention des pathologies favorisées par ce stress, comme les maladies cardiovasculaires ou l'hypertension. Des effets durables sur le bien-être physique et mental sont démontrés à partir de 10 à 15 minutes de cohérence cardiaque par jour, réparties en 2 ou 3 séances de 5 minutes. On se rappelle, Hélène, la cohérence cardiaque, c'est respirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ouais. Finalement, il reste que la validation scientifique doit se poursuivre. Dans une méta-analyse publiée en 2023, le chercheur britannique Guy Finchman et ses collègues ont trouvé que les techniques respiratoires diminuent le niveau de stress ressenti ainsi que les symptômes anxieux et dépressifs. Mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans la manière dont tout cela fonctionne. Les techniques respiratoires, c'est une porte ouverte vers la régulation des fonctions vitales, vers la régulation émotionnelle et cognitive. Elles sont importantes, voire nécessaires, dans le domaine de la santé mentale au sens large, bien sûr. Et on suggère absolument de l'apprendre à l'école. Alors, j'espère que vous vous sentirez mieux après ces quelques techniques, en fait, et ces données scientifiques. Hélène, vous qui aimez chanter, le chant ralentit aussi le rythme respiratoire.
C'est bon pour la santé.
C'est très bon pour la santé.
Physique et mentale.
Exactement.
Merci, Monique.